Bonjour, donc je suis André, je suis artisan en Bretagne. Donc moi j'interviens parce que je viens d'être mis en cause personnellement par France Inter, enfin je le sens au niveau des informations, l'UMP remet en cause les 35 heures en prétextant que les artisans, les petits commerçants, etc. sont scandalisés par ça. Ben, moi il est vendredi matin, il est 8h15, ben, mes ouvriers ont fini la semaine hier soir parce que les 35 heures on les fait en 4 jours, donc ça arrange tout le monde, beaucoup plus de vacances, du temps pour consacrer aux enfants, à la famille, à l'éducation. Non, moi je suis totalement contre la vie de l'UMP, je suis pour les 35 heures, je trouve que c'est une qualité de vie extraordinaire. Voilà, c'était juste mon témoignage. Merci, bonne journée.
Bonjour, gardons notre bon sens. Peut-on faire confiance aux chiffres donnés par les États-Unis sur le redémarrage de leur économie, sachant qu'ils ont menti pour les armes de destruction massive en Irak? Au revoir.
Bonjour Daniel, c'est un Américain, moitié New-Yorkais, moitié Lausaxien, juif, mais pas du tout pro-israélien aussi. Je suis là depuis le 19 juin et je pars demain pour Paris et après New York. J'ai écouté que les programmes fin juin et le mois de septembre. J'étais très, très touché par les émissions avec les deux juifs en juin. Et aussi à la fin des émissions hier, jeudi, sur le procès à Paris. J'espère que je mérite l'étoile jaune des fascistes juifs aussi. Aussi, j'ai apprécié les programmes sur la peine de mort pour l'euthanasie aussi et les gens handicapés. C'était très bien. Chapeau, continue et à l'année prochaine. Je vais trouver peut-être à New York une manière d'écouter le programme. Au revoir.
Ce monsieur là qui dit que la publicité c'est bien et qu'il faut la laisser s'exprimer sur France Inter, hein, non mais ça va pas, non hein. Moi je connais des femmes là, monoparentales là, qui gagnent même pas le SMIC hein, et qui arrivent pas à payer les paires de baskets je sais pas quelle marque là, à 700 balles à leur môme, parce que les mômes ils voient tout ça à la télévision là. Ça coûte 400, 500, 700 balles, voire 1000 balles une paire de baskets. Hein. Alors comment elle fait la nana là, pour payer ça à ses mômes? Elle fait comment là? Hein? Les mômes ils sont harcelés tout le temps à la télé, à la radio, partout, partout les marques. C'est la pub ça. Il faut interdire la publicité. Ça devrait être interdit. Alors s'il y a un petit havre de paix là, un petit kilo à la radio où il n'y a pas de publicité, et je prends l'exemple de France Culture par exemple, eh ben il n'y a pas de pub, et c'est tant mieux, et c'est bien comme ça. Et c'est tant mieux. Voilà, j'emmerde la pub, j'emmerde ceux qui la font, et puis point à la ligne. Salut.
C'est vraiment lamentable les messages publicitaires sur France Inter. Le 7-9 coupé par des messages qui d'ailleurs privent de temps pour les questions, pour les auditeurs, les éditorialistes. Le mieux, là, on vient d'écouter le cœur des chefs d'entreprise à leurs banquiers. Mais vraiment, ils n'ont pas le sens du ridicule à France Inter, ceux qui permettent la diffusion de tels messages. De même, après Jean-Claude Carrière, qui nous raconte des choses intéressantes, on a celui qui s'amène avec sa petite histoire pas drôle, tout de suite sans transition. Non, vraiment, il se moque de nous. Allez, au revoir, bon courage.
Je viens d'écouter des publicités. Réponse A. Je me précipite pour acheter. Réponse B. Je change de fréquence radio et quitte France Inter. Réponse C. Je téléphone à Daniel Mermet pour lui dire assez. Michel de Limoges.
Oui, salut Daniel, je voulais juste te dire que moi aussi je me sens insulté par la pub, notamment une pub qui passe à France Inter et qui incite à éviter de découvrir les transports en commun qui sont présentés comme le comble de la ringardise. Et je voulais signaler également à l'auditeur qui est favorable à la publicité et qui prétend que la pub sur le service public allège le portefeuille des contribuables, l'informer, par exemple, que le Syndicat National Unifié des Impôts estime le montant de la fraude fiscale des entreprises à 45 milliards d'euros, soit notre déficit budgétaire. Voilà, donc ça serait bien un petit peu que ce monsieur s'informe également sur les liens entre les paradis fiscaux et ces belles compagnies bancaires qui inondent France Inter de publicité. France Inter, qui est quand même censé être un service public, donc non financé par la publicité, voilà. Voilà, bah écoute, ciao Daniel, et puis continuez.
Oh là là, vigilant, hein, sur la pub, là, ça y va sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. C'est intéressant, hein, ça, cette petite information, n'empêche. Fraude fiscale des entreprises, 45 milliards de déficit d'impôts, puce à l'oreille, récalcitrant, c'est le répondeur de là-bas, si j'y suis. Ce que vous entendez derrière ma voix, c'est des engins absolument monstrueux qui sont en train de déchirer la Cisjordanie, qui sont en train d'installer le mur, la barrière entre quoi et quoi, on ne sait pas trop, entre la Cisjordanie et la Cisjordanie. Et en tous les cas, c'est là où nous serons à partir de mercredi prochain. 8 octobre, là-bas, si j'y suis, Israël au pied du mur, Palestine, peau de chagrin. Aujourd'hui, on reste chez nous, dans notre petit hexagone, avec Dila Taibi. Où va-t-on? Eh bien, on va dans des choses qui ont complètement disparu, qui n'ont laissé pratiquement aucune trace, même aucune, sauf dans les mémoires, les bidonvilles. Il y avait, alors que vous n'étiez pas né pour la plupart, en France, dans les années 60, jusqu'à 40 000, 50 000 êtres humains, comme vous et moi, qui vivaient dans des bidonvilles autour de Paris, Champigny, les Portugais, ou bien Nanterre, où nous allons retourner avec Dila. Une photo à la main, Dila s'est baladée en essayant de trouver ceux à qui cette photo disait quelque chose. Et vous doutez bien qu'il en a trouvé certains. Mémoire de bidonville, mémoire fantôme. Après les messages que voici, je rappelle encore une fois le numéro du répondeur 01 56 40 37 37.
Bonjour à toute l'équipe. Je suis assez bouleversée. Là, je viens d'écouter le témoignage de Ramon, le tétraplégique. Et il y a une chose justement qui devrait nous interpeller quand justement il ne pouvait absolument pas mourir seul. Il ne pouvait pas mourir seul. Ça veut dire à quel point il ne pouvait pas vivre seul. À quel point il était dépendant. C'est incroyable quand on ne peut pas mourir seul. On est donc absolument on n'est pas maître de sa vie, quoi. Et je voudrais dire une autre petite chose aussi. J'ai un père donc qui s'est suicidé. Et si j'avais pu hurler, je ne sais pas si c'était de joie, de libération. Je me disais, enfin, il ne souffre plus. Enfin. Et je crois que c'est la plus grande d'amour pour quelqu'un. Au revoir.
Mon fils, comme Ramon non plus, ne pouvait pas mourir tout seul. Mais lui ne pouvait rien dire, rien demander. Il était dans un coma dépassé à 30 ans. Alors il vivait. Et c'est moi, sa mère, qui ai dû l'aider, qui ai dû faire ce qu'il fallait. Il faudrait parler de ces cas. Il faudrait parler des cas où les gens sont dans des comas profonds. Ils ne peuvent pas partir, mais ils souffrent, je peux vous dire. Mon fils pleurait dans son coma. Ça, c'est encore un autre problème très grave. Parce que là, toute la responsabilité incombe à l'entourage proche. Et les médecins, alors dans ce cas-là, je peux vous dire, ne nous aident pas. Merci. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Stéphane de Charente. Pour rebondir sur l'émission d'euthanasie, j'étais vachement choqué d'entendre le moment fatidique, dur quoi, vraiment dur, même si, merci pour l'émission parce que ça fait avancer et que c'est intéressant, mais je sais pas si dans la forme on a besoin d'aller jusque là quoi. Ça m'a vraiment bouleversé d'entendre ça et je sais pas si c'était une bonne idée. Mais bon, ceci dit, bravo quand même parce qu'il faut avancer sur le débat et encore merci.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Dila Taibi. Là-bas, si j'y suis, mémoire de bidonville.
flight number 2, arriving from New
York. Il y a des enfants, il y a une dame là, il y a un monsieur, un grand garçon là, et ça c'est les petits, voilà, ils vivent comme ça. Ils vivent comme ça. C'est vraiment...
Il ne faut pas pleurer, monsieur Tellamy.
C'est pas un coup.
Voilà, on peut continuer tout droit. Là, ça commençait. Là, c'était tout un terrain de bidonville. Voilà, c'est là le bidonville. Ça a commencé par là. Là-bas, cette rue là-bas m'intéresse. Ouais. Là-bas, oui, oui. Ouais, c'est génial. Là, tout droit, là, je vois ce mur en briques, là, en face. Mais c'était là que notre petit bidonville était. C'est génial parce que j'avais l'âge de 7-8 ans. Je jouais à 1, 2, 3 soleils dessus. Taper comme ça au mur, 1, 2, 3 soleils, on se retourne, toutes les copines, elles devaient marcher, hop, s'arrêter quand on devait les regarder. Ouais, ça doit être celui-là.
Ça me rappelle des choses là. Le père il travaille, la mère elle est à la maison. Et puis les enfants ils les laissent dehors. Ils y vont pas en vacances, ils vont pas dans les économies de vacances, ils vont pas dans les centres de loisirs. Tout est fermé pour eux. Alors à qui la faute? Moi j'ai éduqué mes enfants. Mes enfants, ils ne sont pas des voyous. Mais les écoles, ils étaient fermées. Pour... Il y a un certificat d'études à l'étour. Oui.
Les pâquerettes, la folie, les prés, le pont de Rouen, la rue Paradis, longtemps. Ces mots jolis désignèrent la galère, la misère des bidonvilles de Nanterre. Mémoire honteuse, pas très fière, refoulement, aucune trace, aucun monument à cette mémoire. Une page douloureuse, comme on dit. Aujourd'hui, les bidonvilles ont disparu en France. La misère est derrière le rideau, sous le tapis, derrière la façade, loin des caméras, bien dissimulée en dessous du seuil de pauvreté. Mais les bidonvilles, en ce temps-là, ça se voyait si on voulait voir. Nanterre, mais aussi Saint-Denis, Champigny, Gennevilliers, en Île-de-France, un recensement de 1970... révèle 50 000 personnes vivant dans des bidonvilles, rien qu'autour de Paris. Mais il y en avait d'autres, Marseille, Nice, un peu partout. Dans les années 60, on en dénombrait 150 en France. Yougoslave à Châtenay-Malabry, Tunisien à Nice, la digue des Français. Mais surtout, c'était les Portugais de Champigny-sur-Marne, près de Paris, et à Nanterre, l'Algérie. Aujourd'hui, c'est au tour des Tziganes de Roumanie, chassés et poursuivis avec acharnement par les amis de Sarkozy. Ils survivent et se débattent dans la même fange, comme des rats dans la boue, les étrons flottants et les bouts de pansement. Bidonville, c'est d'abord cette mémoire pas fière. D'abord, la déchirure, le pays arraché, mutilé et peut-être même trahi. Même si on se raconte qu'on reviendra bientôt là-bas, bientôt. Et c'est ce combat, survivre ici, la boue, la tôle, le cajot,
la famille entassée, le carton bitumé qui peut s'enflammer. À deux pas des beaux quartiers, tout ça à Nanterre, c'est derrière l'Étoile, les Champs-Élysées. La lutte quotidienne pour le moindre bout de ficelle, les bagarres, les arnaques, affreux, sale et méchant, n'est jamais aussi bien exploité que par son propre frère. Mais aussi les solidarités immigrées, celles du bled, celles du monde rural, et tout ce, quand même, qui est le propre de l'humanité. Et les rêves qu'on fait à travers la buée de l'autocar qui vous traîne au boulot. Une maison, un petit pavillon, un appartement dans un HLM, avec un évier, une baignoire, et un jour, peut-être une auto. Il en faudra des privations, des humiliations. Dans les années 70, les bidonvilles ont été éradiquées en France, mais on n'a pas pu les oublier. Aujourd'hui, l'humiliation des parents nourrit la révolte de la deuxième, de la troisième génération. Révolte qui parfois se trompe de colère, dont loin des bidonvilles vivaient des Français, pas moins dans la galère, pauvre contre pauvre. Le pouvoir a toujours été très habile à diviser, et Le Pen vient s'engraisser sur le racisme populaire. En évoquant aujourd'hui avec Dila les bidonvilles, pas question de culpabiliser, pas question de victimer non plus. D'ailleurs, la concurrence des victimes nourrit le communautarisme qui menace notre douce France. Douce quand même, oui. Douce à certains enfants des bidonvilles qui ont réussi à s'intégrer, à l'avoir, la belle auto. Mais beaucoup moins douce, France, beaucoup moins. Pour ceux qui sont restés à l'arrière, en galère, galère héréditaire. Et c'est là, c'est par là que passe le fameux repli identitaire. Les bidonvilles ont disparu, mais la ségrégation continue. Les bidonvilles sont dans les têtes. Avec Monique Hervault, nous avons déjà évoqué ce bidonville de Nanterre, chronique du bidonville, Nanterre en guerre d'Algérie, vous vous souvenez ? Monique Hervault y a passé des années, au moment notamment de la guerre en Algérie, au temps du 17 octobre 61. Elle était une militante, elle a aidé les gens qui vivaient dans ce bidonville de Nanterre. Mais là, c'est un regard différent, c'est un regard beurre. C'est celui de Dila Tebbi qui est allé traîner sur et dans cette mémoire fantôme du bidonville de Nanterre avec une photo à la main. Il a trouvé une photo qui date de 1965 et qui représente ce bidonville. C'est un jour de printemps peut-être ou d'automne. Il fait assez beau, c'est pas ces jours de pluie et de boue. Il y a des enfants, beaucoup d'enfants, une maman, des cajots comme on les faisait à l'époque, un père au loin. Et puis, ces murs de parpaings, de planches, des bouts de fil électriques quand même. Et puis, voilà, c'est sale évidemment, mais c'est là qu'on vivait, c'est là que des milliers d'Algériens devenus depuis Français vivaient. C'est avec cette photo que Dila s'est baladé, espérant trouver ceux qui étaient sur cette photo. Et c'est dans cette image, dans cette mémoire, que nous partons aujourd'hui jusqu'à 18h sur France Inter, la page qui suit. Let's go.
Ah oh, oui, c'est l'école des pâquerettes. Parce que tu vois la sculpture, là. La sculpture, là.
Ah oui, un monsieur qui... Ah oui, qui lève les bras.
Qui lève les bras, puis il a, je sais pas, un oiseau dans les bras, je ne sais pas.
Ouais.
Ben ça, cette sculpture, ils l'ont sculptée devant nous, elle grandissait petit à petit, elle prenait forme. Et c'était géant, moi, dans, à ce moment-là, je voyais ça comme un grand truc. Bon, là, ça part, c'est pas très grand, mais ce jour-là, c'était grand, c'était quelque chose de magnifique. C'était bien plus propre, là, bon, c'est gris, là, par le temps, mais c'était tout blanc. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ce mur, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Attends, c'est, ouais, moi, je pense, les HLM, là, et moi, tu vois, mon bidonville était là.
Juste ici, là,
juste là, disons,
à la place des arbres.
C'est bizarre. Ah ouais, c'est, ils ont bichonné mon petit, ma petite maison, j'ai l'impression. C'est un petit coin de paradis aujourd'hui, plein de verdure, c'est beau. Donc, tous les enfants passaient par ce chemin-là. Il n'y avait pas d'autre chemin. Donc, je regardais, là, je espiaguais tous les passagers, là, tous les gens qui passaient au, à l'école primaire, de mon petit trou de bidonville, et je sortais vers la fin, j'étais toujours la dernière, parce que j'attendais que tout le monde rentrait pour que je ne voulais surtout pas qu'on me voie sortir de chez moi.
On voyait ceux qui étaient du bidonville et ceux qui ne l'étaient pas.
Ah oui, par les chaussures, hein, on pouvait pas cacher notre bout et la boue là qu'on avait dans nos pieds, là, oui.
Bonjour, il y a un petit curieux là. Vas-y, approche-toi. Tu habites ici?
Ouais.
Et est-ce que tu sais ce qu'il y avait ici,
ouais,
avant?
Il y avait du bidonville. Dès que je suis venu, direct, j'ai vu la photo, bah, j'ai su que c'était ça.
Ah, tu le sais?
Bah ouais, je le sais. Ma mère, ils habitaient là avant. Ils vivaient dans la misère et tout. Hein?
Tu dis que ta maman a grandi dans les bidonvilles, alors?
Ouais.
Elle est née ici, dans les bidonvilles,
ouais,
ou elle est venue?
En Algérie.
Elle est née en Algérie, elle est venue avec tes parents, avec ouais, ses parents ici.
Elle est curieuse, mais...
Dis-moi, si tu étais un petit garçon comme celui-ci à cette époque, dans cette photo.
Non, non, j'aurais pas aimé.
Et pourtant, ta maman, elle a été marquée par cette vie quand même difficile.
Bah ouais, elle me parle de ça. Elle me parle de ça, quoi.
Qu'est-ce que t'en penses?
Je sais pas. On dirait l'Algérie.
On dirait l'Algérie. Voilà, voilà, la rencontre est faite. La deuxième génération, troisième génération. Naïma va avoir bientôt la cinquantaine. Hein. Elle est née dans ce, elle a connu ce, voilà, ce bidonville de Nanterre. On entendait Faudel auparavant. Faudel, c'est le chanteur du jeune hein, qu'on vient de rencontrer. Et c'est Dila qui est là avec son micro dans cette mémoire. C'est une mémoire sensible. Tout ne sera pas dit. C'est pas un travail. On n'a pas fait un travail d'historien, ni de ces Français, comme Monique Hervault, Tiers-Mondis, qui sont elles. Non, c'est un regard sensible d'aujourd'hui autour de cette photo, donc, qui date de 1965 et qui renvoie à cette mémoire. Vous vous souvenez peut-être du village nègre à Lyon. C'est un reportage qu'on a fait il y a très longtemps et c'est une chose que vous ne pouvez pas trouver à Lyon. C'était un bidonville comme ça, au milieu de la ville de Lyon, où sont passées des générations de gens qui cherchaient à s'intégrer. Ça a été les Italiens, ça a été les Algériens, ça a été, je crois, même les Gitans, qui sont venus les uns derrière les autres. Et puis un jour, on a détruit cet espace, on a construit dessus, mais il n'y a plus aucune trace, comme si c'était quelque chose qu'on voulait, une expérience, pourtant une expérience humaine, qu'on voulait faire disparaître. Et bien, c'est un petit peu ce qui se passe ici avec Nanterre, sauf qu'évidemment, vous voyez, ce jeune garçon, ça fait partie de sa mémoire, l'histoire de sa mère et d'une culture.
Vraiment, on a passé des années très dures, très dures, très dures. Faut pas raconter ça, on peut pas raconter ça aux enfants. Parce que c'est des choses pas possibles. Pour vivre ici en France, dans un pays comme ça, avec il fallait, on est venu ici, on ne peut pas trouver de logement, parce qu'on n'a pas les moyens. On ne peut pas habiter HLM. Enfin, quand j'ai habité à Nanterre, il y avait un seul HLM dans tout Nanterre. Il n'y avait rien. Il n'y avait que des bidonvilles, des chiffonniers, des ferrailleurs, de tout. Moi, j'ai vu tous les bâtiments de Nanterre se construire. Tous, sans exception. Tous les bâtiments, moi, je les ai vus. J'avais compté 59 bistrots qui ils ont été détruits, enfin détruits, supprimés à long terme. 59. Alors avant, il y avait les cafés tous les 400 mètres. Les gens, ils étaient tous alcooliques. Ouais. Il y avait que des alcooliques à Nanterre. Il y avait des riches et des pauvres. Avant, j'habitais pas loin de Constantine, dans une banlieue de Constantine. Je faisais la poste entre Philippeville et Constantine pour ramasser le courrier et déposer le courrier. Et je suis arrivé ici au mois d'octobre, en 1955, pendant la guerre. Il y a eu le massacre à Philippeville et tout ça. Et moi, je travaillais là. Et ça a tout chamboulé, puis je suis parti de là-bas, je suis venu ici. C'est une grande aventure. Je suis venu à Marseille, et il n'y avait pas d'avion qui venait direct à Paris. Et quand je suis arrivé à Marseille, j'ai pris le train. Et je suis arrivé à la gare de Lyon. Je me rappelle, je suis arrivé à 6 heures du matin. Et quand je suis sorti, j'ai dit à une dame, j'ai dit, madame, pour aller à Barbès. Ah, il me dit, il faut prendre celui-là et celui-là. Et moi, je connaissais pas le métro. J'arrive à Barbès. J'avais une gabardine dans la main. Parce qu'il faisait froid à cette époque. Et j'avais faim, j'avais pas mangé. Et j'avais 2 francs en poche. Et je tourne dans Barbès. Je cherche mon beau-père. Où est-ce que je trouve mon beau-père? Et j'ai trouvé un type de mon pays là-bas. On me dit qu'il habite à Nanterre. Et puis moi, je connaissais pas Nanterre, tout ça. Bon, il m'a dit, viens, je t'amène, il y a des types de mon pays. On a été voir l'autre qui connaissait. Il m'a ramené chez mon beau-père, à la rue Alfred Dequian, dans les Pâquerettes. Et de là, après ma femme allait arriver, on est parti habiter dans l'île Fleurie. C'était des pasteurs qui avaient des chalets, là. Et là, on payait le loyer, là. On avait un grand lit et on dormait, moi, ma femme et mes 2 enfants dans le même lit. C'est-à-dire, elle dort comme ça avec un enfant et moi je dors comme ça avec un enfant. À l'envers. Et ma femme le matin, elle me traverse moi à 6h du matin pour aller au boulot. Après, elle traverse les enfants pour aller à l'école. Les enfants, ils reviennent à midi, elle les traverse. À 1h, elle le retraverse en bateau. À 4h, elle les ramène à la maison. Et je reviens, moi, au travail à 6h, elle me ramène. Et puis, des fois, des péniches, là, quand ils descendent à vide, ils courent vite. Et quand il y a des vagues, le bateau, il bascule. C'est là que je suis passé de l'autre côté, dans le bidonville de la rue du Paris. Et bien, de là, je suis resté jusqu'à... en 1968. Puis j'avais acheté des parpaings, j'ai acheté du ciment, du sable. Et c'est un monsieur, un français, un maçon français qui m'a construit la maison. Et la couverture, c'est moi qui l'a fait. J'ai acheté des chevrons, passé des papiers goudronnés, et dessus on mettait des machins de fibro-ciment. Enfin, on a vécu des années très très dures pour les enfants, pour nous, pour la sécurité, tout ça. On avait peur. Quand il éclate un feu, on sait jamais. Moi, des fois, je travaillais la journée et je passais toute la nuit à surveiller s'il n'y a pas de feu ou quelque chose. Au début, on avait des cuisinières à charbon. c'est après qu'il y a eu les poêles à mazout, là, qu'il y a eu beaucoup d'accidents, parce que des fois, les se bouchent et tout ça, puis d'un seul coup, le feu part. Quand il y a le feu, c'est les paras qui sont tous avec du papier goudronné et tout ça. Si le feu déclare, il y avait une seule sortie pour des centaines. Alors, on n'avait pas de téléphone pour téléphoner aux pompiers ou quelque chose. Ouais. Voilà.
La première chose que les premiers voyageurs de la Terre font, c'est de regarder par le hublot de leur véhicule et de raconter ce qu'ils voient sur la Lune.
It looks like a collection of just about every variety of shape.
Bah oui, 1969. On a marché sur la Lune en 1969. Et tandis qu'on marchait sur la Lune, qu'on regardait nos télés en noir et blanc, incrédules, eh bien, derrière nous, dans notre dos, de l'autre côté de l'écran, il y avait des gens qui vivaient, comme Monsieur Telaoui, dans ce bidonville, celui de Nanterre, comme ailleurs, en France, Argenteuil, Gennevilliers, Champigny. Et ceux que j'ai évoqués à Lyon, à Marseille ou ailleurs. Alors voilà, on est dans cette mémoire-là, le temps a passé, mais il y a quelque chose qui est resté quand même dans ces et qui se transmet, même si c'est une mémoire dont on n'est pas très fier. Elle le disait tout à l'heure, Naïma, c'était la boue, on était des bouseux. C'est ça les bouseux, être des bouseux, c'est la boue qui se voit aux chaussures. Et on raconte que dans ce bidonville de Nanterre, on faisait des efforts pour la propreté, pour être le plus propre possible, les vêtements bien repassés, les chemises bien lavées, bien nettes, pour justement dominer ça. On n'aime pas être victime, on n'aime pas dire qu'on est. Quand on est dans la merde, comme disait Samuel Beckett, il n'y a qu'une chose à faire, c'est chanter. Et c'est un peu de cette chanson aussi qui se donne à entendre dans ces voix-là, dans celle de Monsieur Telaoui et dans celle de Naïma.
Sur Terre, des millions de téléspectateurs sont les témoins de cet événement. Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité.
Alors là, je voulais vous dire, là, nous sommes dans à Nanterville, mais j'ai quitté les bidonvilles pour venir justement dans ce quartier. Après les bidonvilles, enfin, on a fait les cités transit qui ne sont pas très loin de chez nous, là. Mais après la cité transit, on a fait les HLM. Je vais vous montrer là, de ma fenêtre. Par là. Cette tour là, juste là. La tour qui est là, juste en face de la tour où je suis aujourd'hui. Et pas loin, il y a le lycée, le collège André Doucet. Ben là aussi, j'ai inauguré ce collège. Et aujourd'hui, mes enfants l'ont fait, donc c'est génial. C'est une deuxième génération qui passe par là. Moi, j'avais habité au 102 rue des Pâquerettes, dans un bidonville un peu plus sale que celui-ci, parce que sur la photo, les rues sont propres, les maisons sont bien bâties, alors que là, il y a de la pierre, et chez nous, c'était plus de la tôle et du bois. Il y a beaucoup d'enfants, c'est vrai que les enfants n'avaient pas de parc, n'avaient pas de lieu pour s'amuser, donc ils étaient devant les portes des maisons, dans les petites ruelles, là. Bon, nos mères ne sortaient pas, seulement pour aller appeler un de ses enfants, là, comme cette mère. Sur la photo, il y a une jeune fille, là, de dos. Eh bien, franchement, ça me rappelle un petit peu moi. J'avais mes deux petites nattes comme ça. Sûrement, je devais tenir mon frère de la même façon, parce qu'on était déjà très responsables de nos frères et sœurs. Mais je ne pense pas que ce soit les bidonvilles des pâquerettes. Il y en avait plusieurs sur Nanterre. Non, il ne semble pas que c'est les pâquerettes, parce que d'abord, le parterre, il est presque goudronné. Enfin, il a été un peu travaillé, alors que nous, c'était de la boue, hein. On en avait jusqu'aux chevilles de la boue. On rentrait à l'école, enfin, on sortait de nos maisons, on avait plein de boue dans nos pieds, on rentrait avant d'arriver à l'école. C'était une humiliation, puis un calvaire de d'essuyer ses chaussures et puis rentrer en classe avec cette saleté. Oh, c'était pénible parce qu'on faisait tout pour être propre et belle, mais la boue, on n'avait pas d'autre solution, hein. On arrivait avec notre boue dans nos chaussures. Mes grands-parents avaient migré en Tunisie par rapport au travail. Il n'y avait pas de travail en Algérie, ils ont été en Tunisie. Et puis mes parents sont nés là-bas et ont grandi là-bas. Et puis nous, les quatre filles, puis un garçon, on est nés là-bas. Et de la Tunisie, quand l'Algérie a eu l'indépendance, on est rentré une année en Algérie. Et puis il n'y avait pas de travail. Donc papa, avec ses deux frères, il est arrivé en France. On a suivi avec maman 4-5 ans après que papa soit venu à Paris. Alors, je suis arrivée au mois de avril 64. On a pris l'avion, on avait rencontré une autre famille, justement, qui allait habiter aussi dans les bidonvilles. Et puis, maman s'était fait belle, puis nous aussi, avec des petites sandales, des petites... C'était la fête, hein, on allait en France. On a pris l'avion tard, papa était venu nous chercher, puis l'avion a fait du retard, donc il est retourné à la maison. Et de l'aéroport, on a pris un taxi qui nous a amenés dans les bidonvilles. Et mes petits pieds, là, qui devaient faire du 30 ou du 28 de pointure, quand je suis descendue du taxi, mon pied était rentré dans la boue. Et là, c'était l'horreur. J'ai hurlé, j'ai pleuré. Et puis, ça sentait mauvais, la gadoue, là, et tout ça. Et là, ça a été le cauchemar. On s'est posé des questions, mais sans les poser à nos parents. C'était toujours intérieur, c'était toujours dans notre bulle. Là, on vivait ce drame, ce malheur, là, ce déchirement. Ensuite, on est arrivé dans notre bidonville. C'était une petite pièce. Papa n'avait pas trouvé un truc grand. Donc, mes parents avaient un lit à deux places. Et puis, derrière le lit, ils avaient mis un rideau pour avoir un peu d'intimité. Et puis, il y avait un matelas à côté. Et on était alignés comme des poussins, là, les uns contre les autres. On était petits, donc on pouvait facilement nous caser. Donc, voilà, on est resté au moins 2 ou 3 ans là. Jusqu'au jour où papa, il avait trouvé un appartement, enfin un pavillon, c'est bizarre, une baraque avec une grande surface. Donc la surface était un grand carré, puis maman, elle avait aligné les lits en fer l'un sur l'autre, et avec un poêle à mazout à côté. Donc c'était sympa le soir pour avoir des odeurs. Et puis j'avais une marmite d'eau toujours qui était sur le poêle à mazout là-dessus, qui devait être toujours là pour avoir de l'eau chaude. Ça m'a marqué parce que le jour où j'ai eu... La fin de l'année, on distribuait des prix comme ça. Et puis, je devais m'habiller pour aller recevoir mon prix. Et j'ai fait un cauchemar ce soir-là. Je me suis crue à la piscine. J'ai fait un plongeon de mon lit, là, superposé. Je me suis retrouvée par terre avec la marmite d'eau, c'est écrasé, là. Puis, j'avais le front tout amoché, le nez comme ça. Et puis, bon, j'ai pas été chercher mon prix. Voilà.
On va
va se promener aux pâquerettes.
Aux pâquerettes, dans le quartier des pâquerettes, là où il y avait les bidonvilles. C'était 102 rue des pâquerettes. Et puis après, il y avait le numéro de la porte, mais moi, je ne me rappelle pas de ma porte.
Des milliers, ils ont été comme Naïma à passer par ce bidonville de Nanterre, au 102 rue des Pâquerettes. Il y a un texte magnifique dans la collection Autrement, un Nanterre algérien, terre des bidonvilles. Un texte d'Abdelmalek Sayad, le sociologue ami de Pierre Bourdieu, qui a consacré une étude absolument superbe à ce lieu, qui méritait un regard aussi pertinent, scientifique, mais avec une affection, il y a une tendresse quand même dans tout ça. Il y a un amour fou hein, dans ce que dit Naïma pour l'école, pour la République, parce que ça a été quand même le moyen. Ça a été le moyen de s'en sortir. Ça a été le moyen de s'intégrer. Et là, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne s'est pas intégré. Et puis voilà, ça, on parle d'une époque qu'on appelle aujourd'hui les 30 glorieuses, hein, qui vont de 45 à 75. Alors, il y avait des bidonvilles. Mais d'autres vivaient dans ces mêmes difficultés. J'ai évoqué les Portugais, on aurait pu remonter auparavant aux Italiens de Nogent-sur-Marne. Hein. Souvenez-vous du bouquin magnifique, l'Hérital de François Cavanna. Et puis, l'immigration intérieure. Et oui, on a des ancêtres, si vous êtes breton, si vous êtes auvergnat, si vous êtes comme mon grand-père à moi, savoyard, eh ben, ils ont vécu la même chose, quitter leur montagne, leur campagne, et puis venir vers la ville, vers les villes, et venir vers Paris. Les maçons de la Creuse vivaient dans le centre de Paris dans des conditions qui n'étaient pas meilleures que celles de nos amis algériens à Nanterre. Hein. Vers Maubert, Mutualité, il y a des textes, des témoignages, des conditions dans lesquelles vivaient les maçons de la Creuse, ceux qui ont construit notre Paris d'aujourd'hui, celui d'Haussmann, et dont la vie n'était pas enviable. C'est ces immigrations, ces couches d'immigration successives, ces expériences successives qu'il faut avoir présentes à l'esprit, parce que, eh bien, on les oublie, on n'est pas très fiers de tout ça, et on a grand tort. C'est pourquoi on se balade avec l'ami Dila Taibi et sa photo à la main, sa photo de 1965 du bidonville de Nanterre.
Donc là, on entre dans le dispensaire, le centre de santé.
Oui, le centre de santé des Pâquerettes.
Comme à l'époque. Rien à bouger.
Rien à bouger. La brique rouge, là, est toujours là. C'était là où on est venu se réfugier lorsqu'on a eu l'incendie des bidonvilles des Pâquerettes. Et je pense qu'il y a un sous-sol, là. Par là, ça doit donner à un sous-sol. Voilà, il y a des escaliers. On descend et puis ça doit être... là, c'est fermé. Ouais. Et il y a un grand dortoir comme ça. Toutes les familles étaient là... C'était pendant le mois du Ramadan. Et pour moi, c'est un grand souvenir parce que ça a été mon premier jour du mois du Ramadan. La première fois où je jeûnais. Là, il y a eu l'incendie et le soir, il fallait rompre le jeûne. Et maman, s'occupait plus de nous parce qu'on était beaucoup en panique à courir dans tous les sens. Là, nous avons eu des amis français qui habitaient les bâtiments pas loin des bidonvilles, qui sont venus secourir certaines familles, qui nous ont ramené du lait, des dattes. Et quand j'ai bien mangé, je me suis rappelé que j'étais à jeun, je devais être à jeun. Et puis là, j'avais mangé, alors comme si j'avais pêché, j'étais en courant voir maman et puis en pleurant. J'ai mangé, mais elle me dit, mais ma fille, c'est pas grave, c'est l'heure de manger, c'est bien. Et on m'a dit dans la famille, faut plus que tu fasses le Ramadan parce que c'était une mauvaise journée, ton premier jour de Ramadan.
Le paquebot France est lancé. Il a épousé la mer. La mer, tant redoutée et tant désirée des peuples. La mer qui sépare les nations et qui leur permet de se joindre. La mer par où les pires dangers peuvent menacer les États, mais sans laquelle... il n'y a pas de grandeur. La mission du navire France sera de transporter d'un bord à l'autre de l'Atlantique des hommes, c'est-à-dire des pensées et des activités, des foyers de connaissances et des sources de travaux, de l'art et de la richesse. En tout temps, un pareil rôle aurait été tenu pour important. Aujourd'hui, il l'est plus que jamais. C'est en effet des rapports entre nos semblables, autrement dit des échanges, que procède la civilisation. C'est par la connaissance réciproque des pays, par les contacts humains, que le progrès de notre espèce peut se poursuivre. Et c'est pourquoi, de tout notre cœur, nous adressons nos vœux aux navires qui se portent vers l'océan pour transporter des hommes et accomplir sa destinée.
Ne faites pas de rêves médiocres, ce sont les plus difficiles à réaliser. On attribue cette phrase à De Gaulle. En tous les cas, c'était bel et bien lui qui parlait ainsi de la mer et du paquebot. Évidemment qu'entre nos deux rives, cette voie était nécessaire, utile en tout cas pour éclairer cette balade et cette photo aussi, cette photo qui date de 1965, photo prise dans au bidonville de Nanterre et que Dila a montré à des gens. Vous avez vu Naïma, formidable, elle analyse toute la photo, elle s'y retrouve pas, oui, non, etc. Ça nous permet d'évoquer cette mémoire immigrée. Voilà quelqu'un d'autre qui a vécu là, qui s'appelle Brahim Belaïcha. Brahim Belaïcha, il est aujourd'hui expert comptable, il est professeur de judo, il est écrivain. Il a écrit un livre formidable qui s'appelle Vivre au paradis, où il a raconté comment, parti de l'oasis de Guémar dans le sud-est algérien, et ben, avec sa famille, il s'est retrouvé dans ce bidonville de Nanterre, Brahim Belaïcha.
Tu me demandes ce que m'évoque ou m'invoque cette photo. Cette photo, elle est magique. C'est la vie, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Il n'y a quasiment que des enfants en dehors d'une mère de famille. Il n'y a que des enfants. Celui-là, par exemple, celui qui est
avec ses bottes et puis il bombe le torse.
Les poings serrés, il doit avoir 2-3 ans et il fait face à l'avenir. Il y en a un, là c'est une grande sœur qui prend, à mon avis, c'est un nourrisson de 4, 5, 6 mois, ça. Cette photo, c'est les enfants. Moi, ce qui me marque, c'est, je ne vois même plus, pour moi, le bidonville, là, il devient accessoire.
Mais toi, Brahim, tu as quel âge maintenant?
Oh, mais je vais avoir 51 ans, j'ai 50 ans et demi. J'avais 8 ans, moi, quand je suis arrivé au bidonville. Donc,
toi, justement, t'aurais pu être un de ces enfants photographiés.
Totalement, j'aurais pu être celui-là ou celui-là.
Les mains dans les poches.
Ouais, les mains dans les poches.
Et tous ces fils-là, c'est...
Quand l'électricité est apparue.
Est-ce que c'était comme ça ou pas, Craig?
Oui. Et ça, c'est les gens se passent les fils de baraque en baraque, et c'était 10 francs la lampe par mois. Alors le compteur disjonctait de temps en temps, ça hurlait, ça, la baraque du responsable du compteur devenait un lieu de manifestation.
Est-ce que vous vous rappelez, Naïma, de d'où était à peu près la fontaine ?
Pas du tout, non, pas du tout, parce que c'était... Il y avait la sécurité sociale. Elle est encore là-bas, la sécurité sociale, il me semble, alors. Peut-être. C'est magnifique d'être là. C'est vachement beau. C'est beau. Je suis vachement contente d'être là, en tous les cas. Attends, tu vois, parce que...
Est-ce que vous voulez que je vous rende un bout de votre histoire ?
Ouais, absolument, même deux, même trois, ouais.
Mais alors, en face de nous, ici,
la fontaine.
Il y avait une fontaine.
Oh, là, elle était la fontaine ? Non, pas vrai. Elle était là, la fontaine, bon, ben tu vois, j'en pleure. Ouais. Mais pourquoi je pleure, ça, je ne sais pas. Ouais, non, je suis vachement émue, c'est génial. Puis merci, franchement, parce que, tu vois, j'habitais là-bas, je venais ici. Je resitue, tu vois, la situation. Oui, parce que ça remplissait le quotidien de ma journée. C'était le matin, midi et soir, j'y allais à la fontaine, je remplissais mes seaux d'eau. Et par les quatre saisons, là, l'hiver, l'automne, dans les moments difficiles. Même pour les toilettes, il fallait une chasse d'eau, il fallait de l'eau pour les toilettes, de l'eau pour faire à manger, pour la vaisselle, pour la petite toilette du soir et le linge, sachant qu'on était une famille de 10 enfants quand même.
Et pour l'eau, c'était toujours vous ?
Pour l'eau, oui. Moi, j'étais la troisième. Donc les deux grandes, elles étaient grandes, il fallait pas qu'elles soient vues, donc elles sortaient pas beaucoup. Et puis elles aidaient maman à la maison, et puis moi, j'avais le rôle d'être plus à l'extérieur. Moi, j'étais le garçon de la maison, d'avoir la permission de rentrer dans une épicerie ou dans une boucherie. C'est comme en Algérie, c'était des endroits faits pour les hommes ou les garçons, et moi, on m'attribuait ce rôle-là parce que bon, c'est normal, il n'y avait pas de garçon, donc c'était moi qui pouvais jouer au rôle du garçon à la maison. Et puis cette fontaine, c'est aussi le moment joyeux, tu sais, c'était comme au bled, on ramenait nos couvertures, les peaux de mouton, on venait les laver parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et puis on se bousculait, c'était vivant, c'est vrai, oui, un moment très convivial ou bien malheureux parce qu'il fallait se battre pour avoir une place.
Il fallait se battre.
Des fois, oui, il fallait se battre, il fallait vraiment, oui, être effronté pour passer, pour remplir ou... Non, puis t'avais des gens qui étaient bien armés et qui arrivaient avec des grands seaux et tout ça. Ils en avaient pour une heure. Et moi, avec mes petits seaux, là, j'en avais même pas pour 5 minutes. Donc, je négociais toujours le temps pour que je passe en priorité. Ou j'avais l'école. J'étais en retard pour l'école. Il fallait que je fasse vite pour rentrer à la maison et reprendre l'école. Ça, c'était important aussi. Je suis bien. Merci vraiment. Ouais, mais merci de ce cadeau. Parce que c'est génial.
Merci Naïma, c'est un reportage de Dilat Eybi, technique aujourd'hui Antoine Viossa, Michel Thomas, assistante Joël Levert, répondeur Christophe Humbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Choix musicaux Koy Nguyen, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale avec la...